Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 27 avril. Ce soir encore, notre équipe traque l'actualité dans sa profusion et sa diversité et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Comme d'habitude, ces bruits seront politiques, évidemment, et vous ne serez hélas pas épargnés par quelques nouvelles des récents bouleversements électoraux. Mais nous essaierons de nous élever un peu plus haut que les altitudes auxquelles stagnent bien trop souvent les commentaires politiques ces derniers temps et aurons le plaisir de recevoir tout à l'heure Quentin, cofondateur des Insoumis de l'ENS de Lyon, pour parler un peu de la place et de l'avenir de la gauche à l'issue d'un premier tour qui a fait triompher la droite et l'extrême droite. Mais ces bruits seront aussi culturels ou scientifiques dans la deuxième partie de l'émission. Vous entendrez entre autres échos des nouvelles de Bertolt Brecht, de Pascal Clark et de l'intelligence des poulpes. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine par Mathias. Bonjour à toi Mathias.
Bonsoir à toi Rémi, et oui, vous n'y échapperez pas, je vais vous parler des résultats du premier tour de cette élection présidentielle. Je ne vous apprends rien, le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu dimanche dernier et a donné en tête Emmanuel Macron avec 24,01% des voix, suivi de Marine Le Pen qui a reçu 21,3% des suffrages. C'est la deuxième fois que le Front National arrive à se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle depuis le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen avait affronté Jacques Chirac. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon arrivent respectivement 3e et 4e de cette élection avec 20,01% et 19,58%. Le candidat du Parti Socialiste Benoît Hamon réalise quant à lui le deuxième plus mauvais score de l'histoire du parti avec 6,36% des voix, devant le score de Gaston Defferre qui n'avait obtenu que 5,01% en 1969. La quasi-totalité de la classe politique, de droite comme de gauche, a appelé à soutenir Emmanuel Macron pour le second tour, à l'exception de certaines personnalités de droite comme Laurent Wauquiez, qui ont seulement appelé à faire barrage au FN sans donner plus de précisions. Sens commun, la Manif pour tous, Jean-Frédéric Poisson et Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate ont quant à eux appelé à faire barrage à Emmanuel Macron, le, je cite, « candidat ouvertement anti-famille » selon la Manif pour tous. Et on fait entendre qu'il voterait pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, n'a pas donné de consigne de vote et a lancé depuis mardi une consultation des Insoumis sur Internet, dont les résultats seront rendus publics le 2 mai. Les intéressés ont le choix entre trois possibilités, le vote Emmanuel Macron, le vote blanc ou l'abstention. Alexis Corbière, porte-parole de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, a fait savoir qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen. Les deux candidats en lice pour le second tour étaient hier à Amiens sur le site de l'usine Whirlpool menacée de fermeture. Emmanuel Macron était à la rencontre des syndicats à la Chambre de commerce et Marine Le Pen s'est rendue sur le parking de l'usine pour une séance de photos avec les employés et les militants. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à l'usine où il a reçu un accueil houleux. Marine Le Pen s'est mise en congé de la présidence du Front National. Le président par intérim du parti d'extrême droite, Jean-François Jalk, est connu pour avoir tenu des propos négationnistes dans les années 2000. Dans une interview à La Croix en 2000, il avait remis en question l'utilisation du Zyklon B dans les chambres à gaz et il avait aussi loué le sérieux et la rigueur d'argumentation de Robert Forisson. La campagne présidentielle fait des ravages dans le champ médiatique. La journaliste Audrey Pulvar a été suspendue de l'antenne de la chaîne CNews, chaîne de Vincent Bolloré, pour avoir signé une pétition contre Marine Le Pen à la demande du vice-président du Front National, Florian Philippot. Pour sa défense, la journaliste a déclaré sur Twitter, je cite, « Tous les jours, des journalistes éditorialistes d'extrême droite déroulent le programme du FN dans des médias généralistes. Ça ne gêne personne. » À la radio, c'est l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré qui a claqué la porte de l'antenne de France Inter, s'estimant, je cite, « censuré par la radio publique ». Intervenant dans l'émission de Nagui, la bande originale, l'humoriste se serait vu demander de ne pas faire une chronique promouvant l'abstention, chronique qu'il a par la suite diffusée sur sa page Facebook. L'animateur Nagui s'en défend, estimant que l'humoriste n'était pas clair dans son positionnement sur l'abstention. Il lui proposait de faire cette chronique le lendemain, aujourd'hui donc, sans en changer un mot, ce que l'humoriste a décliné. Pierre-Emmanuel Barré a fait savoir que sa décision de démissionner était irrévocable. La campagne n'en finit pas avec les affaires. 17 élus du Front National, dont Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot et Florian Philippot, sont visés par une enquête concernant des emplois fictifs au Parlement européen. En 2015, le préjudice du Parlement européen avait été estimé à 1,9 million d'euros. Et c'est une révélation aujourd'hui, ces estimations ont été revues à la hausse puisqu'elles atteindraient 5 millions d'euros et non pas 1,9. Que fera-t-il après l'Élysée ? On sait que le président François Hollande occupera les locaux d'un bureau situé dans le 1er arrondissement de Paris. C'est une information qui a été révélée aujourd'hui, mais on ne sait pas encore ce qu'il y fera. Je clôt maintenant la page politique de ce journal et attention à l'attaque des tampons tueurs. La journaliste Audrey Gloagen a réalisé un documentaire pour France 5 qui a été diffusé mardi soir et qui met en évidence les dangers des tampons hygiéniques sur la santé des femmes. Depuis le début des années 2000, on constate une augmentation croissante du nombre de syndromes du choc toxique, SCT, qui serait lié aux composants cancérigènes et aux perturbateurs endocriniens contenus dans les tampons absorbants. Et à l'étranger maintenant, Angela Merkel a fait savoir aux Britanniques qu'ils ne devraient pas se faire d'illusions quant aux négociations sur le Brexit qui s'annoncent tendues. La chancelière allemande parlait au Bundestag aujourd'hui. À Londres, maintenant, un homme d'une vingtaine d'années qui voulait commettre un attentat a été interpellé. Des armes blanches ont été retrouvées sur lui. L'individu est désormais en garde à vue. Et cet événement intervient quelques semaines après un attentat qui a touché la capitale britannique. Et c'est tout pour ce journal d'aujourd'hui.
7 avril, Mathias. Merci beaucoup, Mathias, pour ce journal, Les tampons tueurs. Voilà une chronique que n'aurait pas renié Léo à l'époque où il était en charge de l'édito scientifique. Savez-vous, chers auditeurs, qu'il existe un excellent film de série Z où les zombies sont des tampons agressent les êtres humains. Oui, mesdames et messieurs, ça existe. Je peux même vous mettre la bande-annonce sur la page de l'émission pour les plus fascinés par le cinéma d'entre vous. Eh bien, Marie, justement, tu semblais
Quoi, Marie, justement.
Un petit peu choquée par l'idée de parler de ce film.